Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Saturne. Saturne, c'est la deuxième planète la plus grosse du système solaire. Comme Jupiter, sa voisine, c'est une géante gazeuse. Elle a une composition très proche de celle de Jupiter. L'intérieur de Saturne est très probablement constitué d'un noyau rocheux de silicate et de fer, qui est entouré par des couches successives qui sont constituées à 96% d'hydrogène, qui est depuis le noyau successivement métallique, puis liquide, puis gazeux. Il est mêlé à de l'hélium, comme sur Jupiter. Ainsi, elle ne possède pas vraiment de surface solide. Un courant électrique dans la couche d'hydrogène métallique donne naissance à une magnétosphère, la deuxième plus grande du système solaire, mais beaucoup plus petite quand même que celle de Jupiter. Les vents sur Saturne peuvent atteindre une vitesse de 1800 km/h. C'est donc les deuxièmes plus rapides du système solaire, après ceux de Neptune. En gros, Saturne, c'est souvent la deuxième. C'est un petit peu la poulie d'or des planètes de notre système solaire. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle Saturne est connue, et la première, ce sont ses anneaux. Composés principalement de particules de glace et de poussière, ils sont observés pour la première fois en 1610 par Galilée. Ils se seraient formés il y a moins de 100 millions d'années. Les anneaux forment un disque, dont le diamètre est à peu près de 360 000 km, un peu moins que la distance Terre-Lune. Avec les anneaux principaux que l'on nomme A, B et C, qui s'étendent environ de 75 000 à 137 000 km depuis l'équateur de la planète. Ils ont une épaisseur de seulement quelques dizaines de mètres. Également, ils conservent toujours la même inclinaison que l'équateur de la planète. Ils sont principalement composés de glace d'eau, de 95 à 99% d'eau pure d'après les analyses spectroscopiques, avec quelques traces d'impuretés, de tholine. Ça, c'est un terme générique qui regroupe toutes les espèces de goudron stellaire. Ce sont des composés azotés, de couleur souvent rougeâtre, et un revêtement de carbone. Bien qu'ils semblent continus depuis la Terre, ils sont en fait constitués d'innombrables particules dont la taille varie de quelques micromètres à quelques dizaines de mètres, en ayant chacune une orbite et une vitesse orbitale différentes. Si les autres planètes géantes, comme Jupiter, Uranus ou Neptune, ont également des anneaux, le système de Saturne est le plus grand et le plus visible du système solaire, pouvant même être observé depuis la Terre à l'aide d'une paire de jumelles. Ils sont aperçus pour la première fois le 25 juillet 1610 par le savant italien Galilei grâce à une lunette astronomique de sa fabrication. Celui-ci interprète ce qu'il voit comme deux mystérieux appendices de part et d'autre de Saturne. Il faut bien se rendre compte que lui, il n'a pas dû voir le creux entre Saturne et les anneaux, il a dû voir une espèce de forme de madeleine. Un petit peu plus tard, le Hollandais Christian Huygens, qui bénéficiait d'une meilleure lunette que Galilée, est le premier à suggérer qu'il s'agit en fait d'un anneau entourant Saturne, expliquant ainsi la disparition observée par le fait que la Terre passe dans le plan de celui-ci. En 1675, Jean-Dominique Cassini découvre qu'il y a en réalité plusieurs anneaux et une division entre ces anneaux. À ce titre, la séparation observée va garder le nom de division de Cassini. C'est la séparation entre les anneaux A et B. Un siècle plus tard, James Clerk Maxwell démontre que les anneaux ne sont pas solides, mais en réalité composés d'un grand nombre de particules. Les anneaux sont nommés de façon alphabétique, dans l'ordre de leur découverte. Ils sont relativement proches les uns des autres et ils sont donc espacés par ces divisions, souvent étroites, à l'exception de la division de Cassini, d'une largeur d'à peu près 5000 km. En fait, ces divisions ont été causées, pour la plupart, par des lunes de Saturne, par ce qu'on appelle les satellites Berger. Par exemple, le satellite Pan a créé la division d'Encke. Le satellite Daphnis se situe dans la division de Keeler. C'est probablement parce que ces satellites sont plus gros que les particules qui forment les anneaux qui vont attirer toutes les particules se situant sur leur chemin et créer ainsi un vide. Ça permet d'ailleurs de calculer assez précisément la masse de ces satellites. Les anneaux A, B et C sont les plus visibles, le B étant le plus lumineux. Ils sont considérés comme les anneaux principaux. Mais il y a d'autres anneaux, D, E, F et G, qui sont plus ténus, qui ont été découverts plus tardivement. Une partie de la glace de l'anneau E provient des geysers, de la lune Encelade. Il n'existe pas vraiment de consensus quant au mécanisme de formation des anneaux, mais deux hypothèses principales sont proposées concernant leur origine. Une hypothèse, c'est que les anneaux sont les restes d'une lune de Saturne qui a été détruite. Et la deuxième hypothèse, c'est que les anneaux sont le reste du matériau nébulaire originel à partir duquel Saturne s'est formé. Si ces modèles théoriques supposent que les anneaux seraient apparus très tôt dans l'histoire du système solaire, les données de la sonde Cassini indiquent cependant qu'ils pourraient s'être formés beaucoup plus tard. Leur âge est ainsi estimé seulement à 100 millions d'années. De plus, ils pourraient disparaître d'ici 100 millions d'années. À la suite de ces découvertes, le mécanisme privilégié pour expliquer l'apparition de ces anneaux, c'est qu'une lune glacée ou une très grande comète aurait pénétré dans le rayon d'action gravitationnelle de Saturne et aurait été pulvérisée. Les anneaux de Saturne sont inclinés de 27% par rapport au plan de l'écliptique. Ça, c'est la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil. C'est d'ailleurs la trajectoire de toutes les planètes hein, autour du Soleil. Cette inclinaison de 27 degrés est toujours orientée dans la même direction lorsque Saturne est au même point de sa révolution autour du Soleil. La révolution de Saturne, c'est 29 ans et demi. À chaque nouvelle opposition de Saturne, la configuration Terre-Saturne est donc légèrement différente. En conséquence, selon les années, l'inclinaison des anneaux vus depuis la Terre varie. On le dit qu'ils sont plus ou moins ouverts, c'est-à-dire qu'à certains moments, ils sont vus quasiment par la tranche, et à d'autres moments, ils se présentent en suivant un angle qui les rend très visibles. L'ensemble suit un cycle de 29 ans et demi, qui est donc la période de révolution de Saturne autour du Soleil. Pendant cette période, les anneaux montrent tantôt une face, tantôt l'autre, dans un mouvement d'oscillation. Il arrive même, et la prochaine fois ce sera en 2025, qu'ils soient invisibles pendant quelques jours. Une bonne occasion de se rendre compte à quel point ils sont fins. L'observation de Saturne est une des grandes joies des astronomes amateurs. Tous les ans, une période favorable de plusieurs mois permet d'admirer Saturne. Mais c'est autour de l'opposition, qui est le moment où la planète est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, que les conditions sont les plus intéressantes. Saturne est alors visible toute la nuit et atteint son point le plus haut dans le ciel en milieu de nuit. Vous devrez la repérer. Saturne a un éclat jaune clair, elle ne scintille pas. Mais le plus simple, c'est quand même d'avoir une carte du ciel. Comme les planètes changent de place tout le temps par rapport aux étoiles, il vous faut soit une carte du jour imprimée depuis un site web comme par exemple Stellvision, soit une application depuis votre smartphone comme Stellarium ou SkyMap qui vous permettront de balayer le ciel et d'identifier. Déjà, avec une paire de jumelles, vous aurez une image décente. Vous pourrez voir les anneaux, ou en tout cas une espèce de forme de madeleine. Mais très rapidement, avec une petite lunette, même de débutant, vous verrez les anneaux se détacher de la planète. Et avec un gros instrument, de plus de 150 mm de diamètre, une fois bien réglé, avec un grossissement de 100 fois, et une atmosphère pas trop turbulente, vous verrez une image d'une grande netteté, assez époustouflante. On a parfois du mal à se dire qu'on regarde alors un monde à la fois si loin, mais aussi si proche de nous. Alors revenons sur ces plus grands satellites. Titan, c'est le plus grand. Il représente 96% de la masse en orbite autour de la planète, anneaux compris. Il a été découvert par Christian Huygens en 1655. Il s'agit de la première lune observée. Il est le deuxième plus grand satellite naturel du système solaire, après Ganymède. Son diamètre est plus grand que celui de Mercure ou encore de Pluton, par exemple. Et il est le seul doté d'une atmosphère majeure, constituée principalement de diazote, dans lequel une chimie organique et complexe se produit. C'est également le seul satellite avec des mers et des lacs d'hydrocarbures. Le satellite, principalement composé de roches et d'eau de glace, voit son climat modeler sa surface de façon similaire à ce qui se produit sur Terre, faisant qu'il est parfois comparé à une Terre primitive. En juin 2013, des scientifiques de l'Instituto Astrophysica de Andalusia signalent la détection d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'atmosphère de Titan. C'est un possible précurseur de la vie. Ainsi, il s'agit d'un hébergeur de vie extraterrestre microbienne possible et un possible océan souterrain qui pourrait servir d'environnement favorable à la vie. En juin 2014, la NASA affirme avoir des preuves solides que l'azote de l'atmosphère de Titan proviendrait de matériaux du nuage d'Oort, associés aux comètes, et non aux matériaux qui ont formé Saturne. La deuxième plus grande lune de Saturne, qui s'appelle Rhea, possède, elle, son propre système d'anneaux et aussi une atmosphère ténue. Japette, quant à elle, est remarquable par sa coloration, l'une des hémisphères étant particulièrement brillante alors que l'autre est particulièrement sombre, et par sa longue crête équatoriale. Avec Dionée et Tétis, ces quatre lunes ont été découvertes par Jean-Dominique Cassini entre 1671 et 1684. William Herschel va ensuite découvrir Encelade et Mimas en 1789. La première, Encelade, dont la composition chimique est assez similaire aux comètes, est notable car elle émet des puissants geysers de gaz et de poussière. Elle pourrait contenir de l'eau liquide sous son pôle sud. Ainsi, elle est également considérée comme un habitat potentiel pour la vie microbienne. La preuve de cette possibilité inclut par exemple des particules riches en sel ayant une composition semblable à un océan, qui indique que la majeure partie de la glace expulsée par Encelade provient de l'évaporation d'eau salée liquide. Un survol par la sonde Cassini en 2015 à travers un panache sur Encelade a révélé la présence de plusieurs ingrédients nécessaires à soutenir des formes de vie. Mimas, quant à elle, est responsable de la formation de la division de Cassini, et son apparence avec un cratère faisant le tiers de son diamètre fait qu'elle est régulièrement comparée à l'étoile de la mort dans la saga Star Wars. Parmi les satellites de Saturne, plusieurs ont des désignations provisoires. Ces désignations provisoires, c'est le statut d'un objet du système solaire juste après sa découverte. Cette désignation est remplacée par une désignation permanente une fois qu'une orbite fiable a été calculée et qu'on sait que c'est bien un satellite qui orbite régulièrement autour d'une planète. Si par exemple, vous suivez un objet céleste inconnu des cartes pendant plusieurs jours de suite, vous pourrez envoyer ses coordonnées au centre des planètes mineures, qui vous fournira une désignation provisoire. Cette désignation provisoire est composée de l'année de la découverte, puis d'une lettre qui indique la quinzaine de découverte. La lettre A pour la première quinzaine de l'année, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. La lettre B du 16 au 31 janvier. Le C du 1er au 15 février, etc. Cette lettre est suivie d'une autre lettre indiquant l'ordre de découverte dans cette moitié de mois. La lettre I n'est jamais utilisée pour éviter la confusion avec le chiffre 1. Et le Z, on n'en a jamais besoin parce qu'il n'y a que 24 demi-mois dans l'année. S'il y a plus de 25 découvertes pendant la quinzaine, on boucle sur la lettre A et on ajoute un nombre pour indiquer combien de fois la deuxième lettre a été utilisée dans cette moitié de mois. Bon, attendez, je vous donne un exemple parce que c'est un petit peu compliqué tout ça. Par exemple, imaginons qu'au mois de mai 2022, vous ayez observé un nouvel objet et qu'après avoir consulté le catalogue complet des orbites des objets mineurs, vous réalisez qu'il n'a jamais été encore identifié. Nous étions entre le 9 et le 12 mai. Vous l'avez observé plusieurs fois entre le 9 et le 12 mai. Vous envoyez les informations de votre découverte au Minor Planet Center sur leur site internet et ils vous annoncent que la dénomination de votre découverte est donc 2022 JB1. Si votre objet est bien confirmé comme nouveau, une fois qu'on sera bien certain d'avoir assez de mesures pour calculer son orbite et ne plus jamais le perdre, l'objet entrera au catalogue officiel.